AVS à votre santé, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. Mon invité s'appelle Christophe Hague, bienvenue.
Bonjour Philippe.
Ah, vous êtes professeur associé en comportement organisationnel, je vais le dire. Vous allez vous intéresser au cerveau humain et tout particulièrement à l'utilisation intelligente de nos émotions et de notre intuition dans la vie de tous les jours. Vous avez co-développé deux outils digitaux. Alors il y a le Dr Mood, dont on parlera tout à l'heure, et Moodwork, et vous publiez La Contagion émotionnelle aux éditions Albin Michel. Alors vous avez pris le temps de l'écrire ce livre, hein, parce que c'est un livre que vous portez depuis 2001. Pour expliquer un petit peu ce qui se passe, c'est que vous avez été interviewé des gens, et des gens qui vivent des émotions extrêmes, pour illustrer comment on vit nos émotions au quotidien. Pourquoi avoir besoin de cette extrémité pour comprendre ce qui nous anime tous les jours ?
Alors moi, mon dada, c'est ce qu'on appelle la tératologie. Alors ça paraît un peu raëlien comme ça quand on l'entend.
C'est bien ça.
Mais en gros, c'est d'étudier les monstres pour comprendre la réalité, la nuit, le jour. Moi, je pense qu'on apprend beaucoup en discutant avec des profils un peu bizarroïdes. On apprendrait vachement de discuter avec Frankenstein sur le genre humain. Mmh. Et donc en fait, l'idée, c'était d'aller dans des situations extrêmes pour observer des phénomènes en fait, qui se produisent dans notre quotidien, mais qui sont imperceptibles dans notre quotidien. Ils sont un peu moins tangibles. Alors que quand vous allez au sommet de l'Everest, du K2, dans une station spatiale, tout est amplifié, donc tout est beaucoup plus facilement observable. Mmh. Donc ça, c'était vraiment mon objectif.
Donc pour illustrer des émotions négatives, vous allez interviewer des traders, et des tradeuses d'ailleurs.
Ouais, alors plus de traders que de tradeuses, parce que les traders mènent la vie dure aux tradeuses. Il y a des comportements extrêmement machistes, c'est très agressif, il y a beaucoup de colère, beaucoup de jalousie dans ces univers-là. Et donc, eux vous expliquent comment l'angoisse, la peur, la colère, en fait, se transmet d'un individu à l'autre. Et comment est-ce qu'ils essayent aussi, d'une certaine manière, à se décontaminer, en fait, de tout ça, ce qui est pas évident. Et voilà, donc il y a plein d'univers comme ça qui se mélangent et qui nous aident à mieux comprendre des choses du quotidien.
Ce que je retiens de votre livre, c'est que finalement, les neurosciences dont on parle énormément aujourd'hui valident beaucoup de théories qu'on a imaginées depuis quelques années et qu'elles les valident une à une. Ça veut dire que nos grands prédécesseurs étaient quand même malins, quand même. Ils avaient intuitivement senti des choses.
C'est ça. Et en fait, moi, je me considère aujourd'hui comme un ouvreur de portes qui met juste des mots sur des phénomènes qui existent depuis le début de l'histoire de l'humanité. Mmh. Mais simplement en mettant des mots, en traçant dans le cerveau, en arrivant à mesurer métriquement, etc., et ben, d'une certaine manière, on rassure les gens. On leur dit, ben voilà, on comprend mieux ces phénomènes, donc en les comprenant mieux, ben, on arrive peut-être mieux à les dompter, mieux à les gérer, etc. Donc ouais, j'essaie de rassurer un petit peu mes lecteurs, en fait.
Alors, vous avez gratté pour trouver une définition souterraine qui vous convienne. Quelle définition donnez-vous de la contagion émotionnelle ?
Alors pour moi, la contagion émotionnelle, en fait, c'est le transfert d'émotions, qu'elles soient bénéfiques ou toxiques, d'un individu à un autre. En fait, c'est une forme de virus, comme ça, qui se transmet très rapidement d'une personne à l'autre. Et quand je dis très rapidement, c'est très rapidement. Il y a une expérience célèbre, moi, qui m'a beaucoup plu, qui était menée sur Cassius Clay, sur Mohamed Ali. Et on avait observé qu'en 230 millisecondes, il arrivait, en fait, à repérer et à réagir par un coup de poing, un signal lumineux. Figurez-vous qu'il suffit d'à peine 21 millisecondes, c'est le temps de projection d'une image au cinéma, pour que deux personnes qu'on place dans une pièce et qui discutent entre elles, eh bien finissent par synchroniser leurs mouvements et leurs émotions.
Mmh. Extrêmement rapide. Qu'elles soient positives ou négatives, même si vous l'expliquez, les émotions négatives comme la peur, par exemple, vont plus vite que les émotions positives.
Ouais, elles vont plus vite et en même temps, elles accrochent plus l'esprit. Il y a un célèbre psychologue qui disait: le cerveau humain, il agit sur les expériences négatives comme du velcro et sur les expériences positives comme du téflon. Bah, tout ça pour dire ouais, que les émotions négatives, elles sont plus contagieuses, elles s'accrochent plus à l'esprit et elles sont plus difficiles à décroter aussi.
Mmh. Si on en revient à Mohamed Ali, il était affûté physiquement, mais il était affûté intellectuellement aussi, lui.
Ouais, c'est ça.
Ça fusait, hein. C'est quand même un gars qui enchaînait les perles. Hein,
C'était quelqu'un qui fonctionnait vachement à l'instinct. Il le disait lui-même, d'ailleurs, il suit son instinct dans à peu près tous ses choix de vie. Je pense que c'était quelqu'un qui se laissait contaminer et qui était un pourvoyeur d'émotions spectaculaires aussi. Alors,
là, c'était le spectacle de l'émotion. Intimider son adversaire, lui.
C'était ça, mais quelque part, au fond de lui, c'était quelqu'un qui avait quelqu'un d'extrêmement empathique et je crois qu'il captait beaucoup, beaucoup de signaux faibles autour de lui.
Alors, les émotions sont contagieuses pour la santé, bonnes ou mauvaises ?
Ça dépend. Il y en a qui sont bonnes, d'autres qui sont plus mauvaises. Imaginez, aujourd'hui, vous avez 9 peurs ou 9 angoisses sur 10 qui sont totalement fantasmées, elles n'ont pas lieu d'être. Bah ça, c'est hyper usant, hyper énergivore, en fait, pour votre cerveau. Votre cerveau, il croit qu'il traite un truc important, qui est aidant, qui vous dit quelque chose sur l'environnement, alors pas du tout. Et derrière, bah, il met en route toute la machinerie, il sort l'artillerie lourde, et ça, c'est très fatigant. Donc, les gens qui sont systématiquement, entre guillemets, intoxiqués par ce type d'émotions-là, fantasmés, bah, finissent par faire de l'hypertension, de l'hyperglycémie, à affaiblir leur système immunitaire, à choper plein de maladies, des rhumes, la grippe, etc. etc. Donc ouais, il y a des vraies conséquences, en fait, à être en sur-régime d'émotions toxiques.
Alors, on va faire un cas pratique pour ceux qui nous écoutent et qui vont au bureau ce matin. Comment la contagion d'émotions négatives fonctionne-t-elle au bureau ?
Alors au bureau, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est dans le top 5 des émotions les plus fréquentes, les plus fréquemment ressenties et les plus contagieuses, on retrouve la jalousie. Donc on a tendance au bureau à lorgner un petit peu sur le collègue, à voir si ses conditions sont les mêmes que les nôtres, s'il n'y a pas un petit avantage, etc. Donc on est toujours en train de sous-peser ce que la personne donne à l'organisation et derrière ce que l'organisation lui donne en retour.
On est en permanence dans la comparaison.
Permanence dans la comparaison. Et quand on fait cette comparaison et qu'on trouve que finalement c'est déséquilibré, donc en notre défaveur, un sentiment d'injustice naît, il y a de la jalousie, on l'exprime. Mmh. Et derrière, effectivement, ça crée autour de soi des climats un peu délétères.
Alors, c'est une. Hein. Alors, vous vous dites que d'abord, avant de choisir un travail, il faudrait d'abord se poser une question. Est-ce que je suis prêt à travailler dans un environnement anxiogène et exigeant ? Ça, c'est le cas des traders, mais c'est vrai dans tous les boulots. Si dès le départ, on sent qu'on n'est pas prêt, ça ne sert à rien. Parce que les conséquences sur la santé à payer sont énormes.
C'est ça. Et puis, en entreprise, moi, dans le livre précisément, je m'intéresse à un cas d'école, c'est le pervers narcissique. C'est ce que j'appelle d'ailleurs l'enflure toxique. Donc, vous pouvez d'ailleurs faire un test pour mesurer votre niveau d'enflurerie toxique. Parce qu'on est tous le sale con de quelqu'un aussi. Et on peut créer du mal aussi d'un point de vue émotionnel. Mais évoluer dans des environnements avec des concentrations très très fortes d'enflure toxique, bah ouais, c'est néfaste. Et on peut très rapidement être vampirisé, une morsure d'un sale con sur vous, et vous transformez vous-même en sale con. Et vous devenez pourvoyeur d'émotions toxiques. Il y a un chercheur de Stanford qui avait une phrase, moi, que j'adorais. Il disait en fait que les individus comme ça qui vous jettent à la figure des émotions toxiques à longueur de journée, notamment en entreprise, c'est un peu comme ces lapins dans la verte campagne écossaise, qui sont un peu protégés par le système des fois, et qui pullulent très rapidement parce qu'ils recrutent des gens comme eux. Et donc, faites-en rentrer un à un moment dans la bergerie et c'est le début des problèmes.
C'est des loups, ça.
C'est ça.
Ça, c'est pour les traders.
Le louveteau devient loup après.
Comment est-ce qu'on les repère, finalement, ce que vous appelez les agents pathogènes, les personnes toxiques ? Je parle de l'entreprise. Hein.
Ce sont souvent des personnes qui arrivent à souffler et le chaud et le froid. C'est un peu, en fait, comme des gourous de secte. J'en parle dans le livre. Vous avez, on s'est amusé en fait à aller avec une médecin phoniatre à analyser les voix de trois gourous, notamment l'un des fondateurs de la tristement célèbre secte du Temple solaire, et pour savoir comment ces gens-là hameçonnaient émotionnellement leurs victimes. Mmh. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ces personnes, d'une part, utilisaient beaucoup, beaucoup d'émotions positives au début. Donc en fait, ils vous bombardent. Ça dégouline de partout d'émotions, d'amour, etc. pour vous donner confiance en eux. Ils vous font écouter des choses que bah, vous n'entendiez plus dans votre quotidien, dans votre couple, etc. Donc au départ, ils vous hameçonnent par du très, très, très positif. Les anglo-saxons appellent ça le love bombarding. C'est vraiment ça, hein, c'est des mégatonnes de choses extrêmement plaisantes pour vous hameçonner. Et ensuite...
Mais pourquoi ça marche ? Parce que finalement...
On a tous besoin d'entendre ça. On est dans une société où il y a beaucoup de négativité. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Et derrière, effectivement, rares sont les personnes qui vous font des compliments, qui vous disent « Tiens, là, t'es été extrêmement bon. » Parce qu'on est dans une société qui est très narcissique, qui est très auto-centrée. Donc voilà, faire du bien autour de soi, des fois, c'est un truc un peu optionnel, quoi. Donc là, ces gourous-là, ils l'ont compris. En entreprise, vous avez des gens qui agissent de manière gourouesque et qui sont dans ce love bombarding. Et juste après, une fois qu'ils vous ont hameçonné, une fois qu'ils ont créé une espèce d'emprise mentale avec vous, ben là, ils se mettent à souffler plutôt le froid, à avoir des comportements totalement ladres, asociaux, colériques, etc. Et donc, ils sont systématiquement dans cette espèce de ping-pong émotionnel, ce yo-yo émotionnel. Et c'est très dur de réagir face à des gens comme ça. Et ils vous maintiennent comme ça très longtemps autour d'eux, en fait.
Combien de personnes il faut pour contaminer une équipe ?
Deux personnes suffisent, hein. mais même une. Je veux dire, vous avez un agent toxique dans une équipe. Si la personne, à un moment, c'est le fameux... Le type qui va voir à chaque fois le verre à moitié vide, qui va trouver dans son entreprise, voilà, ou qui va soulever tous les lièvres, qui va soulever tous les problèmes, qui va les verbaliser, qui va faire ce que les anglo-saxons appellent aussi voice, hein, donc il va vraiment verbaliser tous ces trucs qui...
Alors, exemple quoi ? C'est-à-dire que les gens qui remarquent que ce qui ne va pas, en fait.
Voilà, que ce qui ne va pas, et qui le disent constamment, notamment dans les réunions, bah, au bout d'un moment, vous avez un espèce de petit filet comme ça, non-stop, qui vient vous bercer et qui, au bout d'un moment, ben, effectivement, va vous intoxiquer et faire que vous-même, vous allez voir le verre plutôt aussi à moitié vide, quoi.
Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait alors face à ce genre de profil ?
Ouais. Alors, moi, j'ai envie de dire un profil comme ça qui vous agace beaucoup, qui éveille en vous des émotions très désagréables et de manière très intense. Je pense qu'au début, il faut rester un peu au contact parce que ça révèle quelque chose sur vous.
Neuro-miroir.
Il y a qu'à un moment, il y a quelque chose à régler avec vous. C'est peut-être pas normal que cette personne vous mette dans ces états-là, qu'elle arrive à vous amener à devenir totalement quelqu'un d'autre. C'est qu'il y a un truc à régler avec soi-même. Une fois qu'on a compris ce que c'était, derrière, il faut décrocher. Hein, comme un pilote de chasse, à un moment, tu décroches émotionnellement. Et il faut les fuir, ces personnes-là, parce que derrière, effectivement, ce sont des vampires qui se nourrissent de votre énergie pour avancer dans la vie.
Alors, les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on utilise beaucoup, hein, vous dites, sont contagieux. C'est un petit peu la même chose qu'on disait tout à l'heure. Dire qu'au début, le pervers narcissique va vous faire des compliments, donc va vous donner ce que vous voulez. C'est comme ça qu'ont été pensés les réseaux sociaux.
Et d'ailleurs,
dès le départ. Hein.
Ouais, d'ailleurs, la plupart des grands fondateurs de certains grands GAFA, etc., aujourd'hui, ils font leur coming out, en fait. En disant, bah ouais, on a voulu faire de vous des joueurs, en parlant des utilisateurs, des joueurs de casino. Donc il y a plein de grands messes comme ça, de personnes qui sont devenues des conférenciers. Et c'est un peu comme le type qui avait le dresseur de Flipper, le dauphin, qui aujourd'hui lutte contre l'exploitation des dauphins dans les bassins. Bah, vous avez aujourd'hui des fondateurs des GAFA qui disent, bah non, on a créé des addictions en fait dans vos têtes. Et moi, j'ai envie
On a créé des addictions, mais ouais. Parce qu'on a voulu le faire sciemment.
Ah, mais
en connaissance de cause.
De manière métrique, de manière intentionnelle, comme quand on peut le faire, quand on définit des machines à sous, leur emplacement, les types de visuels que vous allez retrouver sur ce type de machine qu'on retrouve au casino. Et pour rester sur les réseaux sociaux, ce qui aujourd'hui est extrêmement malsain à mon sens, c'est ce que les Anglais appellent « fear of missing », la peur de manquer l'information. Et ouais, qui serait sur le fil, sur la story, là, sur le mur, etc. Et donc là, ça crée des angoisses en vous, juste parce que vous avez peur, en fait, grosso modo, d'être rejeté par votre communauté, qu'il y ait un rejet social, etc. Et donc, vous êtes alimenté par ces espèces d'émotions factices qui vous pourrissent la vie, même si on ne s'en rend pas compte et même si on ne le conscientise pas tout de suite.
Voilà, et ça devient addictif.
Addictif et extrêmement problématique. Ça crée des troubles psychosomatiques, troubles du sommeil, troubles alimentaires, etc., etc.
Et vous soignez le mal par le mal, car vous avez inventé un outil virtuel, c'est-à-dire exactement pour soigner, hein, pour se soigner. Ouais. Alors, vous avez développé deux applications.
Alors, il y a Dr Mood, DR... plus loin, Mood, M-O-O-D, Mood, en anglais, humeur. Alors justement, on a créé des apps qui ont pour objectif de ne pas être addictives. C'est-à-dire que nous, on le dit très clairement à nos utilisateurs, au bout de 6-7 mois, lâchez l'app. En fait, l'app, elle est là pour vous aider à labelliser les émotions que vous ressentez, à mettre un nom là sur les ressentis intérieurs, quels sont les bénéfices, les inconvénients à ressentir telle ou telle émotion. Et derrière, Dr Mood va vous donner en fait des conseils pour réguler, si nécessaire, l'émotion en place. On a fait on a créé un outil pour l'entreprise aussi qui s'appelle Mood Work. Et donc là, c'est vraiment à nouveau une plateforme pour mesurer un petit peu quel est votre niveau de bien-être, prévention du stress, prévention du burn-out, et avec des programmes qui permettent vraiment aux salariés derrière de se prendre en main, de réguler ses émotions, etc. Et l'idée à nouveau, c'est qu'en allant sur ces outils-là, sur ces plateformes-là, il y a un apprentissage qui se produit. Et donc, au bout d'un moment, une fois, comme le Padawan qui devient Jedi, une fois qu'on devient Jedi du truc, derrière, on abandonne l'outil. On peut fonctionner de manière totalement autonome. Moi, je suis pour l'autonomie psychique. en termes de régulation émotionnelle des salariés, des individus dans la rue, etc.
Soigner le mal par le mal. Oui. Christophe Haag est notre invité aujourd'hui. Vous publiez la contagion émotionnelle.
On va être contaminé, positivement, voilà, négativement.
Aux éditions Albin Michel. Christophe Haag est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la publication de La contagion émotionnelle aux éditions Albin Michel. On va apprendre un mot. La bigorexie, c'est quoi? C'est la peur des curés?
Non. Alors, tiens, je vais vous questionner. C'est quoi pour vous?
La bigorexie, ouais. C'est quand quelqu'un fait trop de sport, finalement, il développe une addiction et ça lui manque après.
Et alors, on a tous
C'est le blues, hein, c'est une forme de sport blues.
Voilà. Alors, on a des exemples comme ça en tête. Il y avait Lisa Razou qui en parlait beaucoup sur les plateaux de télé. Donc, à un moment, effectivement, elle rentre dans cette forme d'addiction. Donc, effectivement, moi, je pense que
C'est des sportifs de haut niveau, voilà, qui ont connu de très grandes émotions, de très grandes victoires, voilà, et qui finalement font des dépressions quand ils arrêtent.
C'est ça. Et moi, j'ai retrouvé cette forme-là de maladie, notamment auprès des astronautes. C'est-à-dire des personnes qui ont été shootées à l'émotion extrêmement bienveillante quand ils flottaient là-haut dans la station spatiale et qui, une fois de retour sur Terre, étaient comme des junkies, mais totalement en manque, et qui cherchaient justement à se dire « Tiens, comment je vais pouvoir me réapproprier ?» Hein, certains parlent de première gorgée de bière, moi je parle de première émotion intense comme ça vécue là-haut. Et donc, ils font des sports de haut niveau, etc. Mais ils n'arrivent jamais à retrouver, en fait, très précisément, j'allais dire, cette émotion là-haut. Et vous en avez même certains qui finissent en dépression, en burn-out, d'autres finissent même par se suicider, en fait.
On a Thomas Pesquet, hein, que vous avez interviewé, mais qui, lui, va reprendre l'entraînement en vue d'un nouveau voyage dans l'espace. Mais quand on est astronaute, il faut se dire que quand même, il y a très peu de chances d'y retourner une deuxième fois. Hein.
Alors, Thomas Pesquet, je ne l'ai pas interviewé précisément dans le bouquin, mais j'avais quatre autres astronautes qui, effectivement, contrairement à Pesquet, n'ont pas, en fait, de vol devant eux. Et pour eux...
Il y a Ignoré, notamment...
C'est un manque. Ouais. C'est un manque d'un point de vue émotionnel. Et ils se retrouvent dans cette position de quasi-drogué, où ils font des sports extrêmes, où ils occupent des positions hiérarchiques ou à haute responsabilité, mais jamais ça suffit, à combler leur manque, sauf s'ils font des micro-deuils de ça et qu'ils disent « Attends, finalement, ces émotions-là, je vais essayer de les partager. » Et il y a, par exemple, Michel Tonini, un des astronautes interviewés, qui me dit moi, ce que je fais, je vais dans des prisons, je vais dans des quartiers difficiles et raconte cette histoire avec cette jeune fille qui a eu une enfance extrêmement compliquée. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez atroce. Et qui était au premier rang. Et Tonini lui parlait justement de ses émotions. Il parlait à l'Assemblée. Et il voit dans les yeux de cette fille toute une tendresse, tout un tas d'émotions. Il représentait quelque chose pour elle, une forme d'évasion, de liberté. Et à la fin, le dernier mot terminé de prononcer de sa conférence, elle se lève, il se dirige vers elle et ils se huguent, ils se prennent dans les bras, elle pleure, il pleure. Et d'une certaine manière, il l'a soignée en fait comme ça. Il l'a contaminée d'émotions extraordinaires vécues là-haut, d'émotions qu'elle n'avait jamais vécues avant, avec des émotions extrêmement pénibles vis-à-vis de ses parents qui la maltraitaient, etc. Et il a été une sorte d'anxiolytique naturel. Donc je veux dire, quand on est capable, ou quand on vit ce genre de choses, quand on est artiste, quand on est sportif, quand on est aventurier, je pense qu'il y a un devoir de restitution émotionnelle pour faire du bien à des personnes qui n'ont pas eu la chance, en fait, d'être baignées dans ce type d'émotion-là.
C'est vrai que la bigorexie, ça pourrait correspondre à un chanteur qui fait une tournée de 150 dates à travers le monde.
Exactement.
Et qui subitement se met à rentrer chez lui tous les soirs, quoi.
C'est ça. Mais je veux dire, il aura donné quelque chose d'extraordinaire à des individus. Il donne accès à des émotions qui sont des émotions extrêmement utiles et bénéfiques.
Qu'est-ce que les astronautes ont à nous apprendre dans la gestion des émotions?
Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup surpris. Michel Tonini part sur la station, dans la station Mir, à l'époque. Et là, donc, il m'écrit une lettre, en fait, dans ce bouquin que je publie. Et donc, dans cette lettre, il m'explique que là-haut, il ressent exactement les mêmes sensations que quand il était dans le liquide amniotique de sa maman. Il dit, voilà, c'est comme si mon corps me ramenait vers mon Big Bang.
Il faut s'en souvenir quand même.
Mais c'était tellement puissant qu'en fait, ça a réveillé en lui cette espèce de Big Bang existentiel. Et là, ça devient intéressant parce qu'il compare en fait la station spatiale à sa maman. Lui, il se compare au fœtus et il dit, bah là, il y avait transmission directe d'émotions entre eux. En gros, cette architecture là-haut, et on parle d'architecture organique, hein, il lui donnait un petit nom, c'est personnifié, etc., et lui. Et ça, ça m'a amené à m'intéresser justement au transfert des émotions entre la maman et le fœtus et l'enfant. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une maman qui est très, très, très anxieuse pendant sa grossesse, qui a un stress chronique, et qui a peut-être même un trauma pendant la grossesse, eh ben, va sécréter tout un tas d'hormones qui vont passer la barrière placentaire et vont directement se retrouver dans le liquide amniotique. Et donc, le petit locataire intra-utérien, là, il va carrément en fait, s'imbiber de tout ça. Et ça fait qu'au final, lorsque vous avez une maman extrêmement stressée pendant les 9 mois de grossesse, eh bien, ça fait que les enfants derrière naissent de manière beaucoup plus stressée, ont un espèce de retard moléculaire en termes émotionnels, en règle générale sont beaucoup plus instables, ont des parcours de vie un peu plus chaotiques et ont même des fois des durées de vie plus difficiles. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous faire peur aujourd'hui un petit peu, c'est que même avant la conception, on remarque, il y a une étude publiée dans Nature en 2018 qui portait sur 14 espèces de vertébrés, dont l'homme, que lorsque la maman a un traumatisme très fort dans sa vie, subit un stress chronique, elle le transfère directement à son gamin également, derrière, effectivement, sera beaucoup plus stressé, sera beaucoup plus sujet à des états dépressifs, etc. Donc, on a une certaine forme de responsabilité quand on est parent à essayer aussi de s'autogérer pour que ça n'impacte pas nos enfants.
Il y a donc transmission des émotions négatives et positives, d'ailleurs, aux enfants.
Et positives, parce que vous prenez l'inverse, une maman totalement zen qui a je prends l'exemple de la grossesse, qui a une grossesse extrêmement heureuse. Bah, derrière, effectivement, vous en faites un gamin qui est extrêmement bien dans sa tête, bien dans sa peau, et qui a un niveau de bien-être supérieur à la moyenne.
Et ensuite, une fois que l'enfant est né, vous parlez des bienfaits de la câlinothérapie. Enfin, moi, j'appelle ça la câlinothérapie, mais les bienfaits de faire des câlins.
Ouais, c'est ça. Parce que
l'aptonymie, de toucher le bébé, voilà, le contact.
On est des fois dans une société, alors les Allemands sont vachement là-dedans, par exemple. En France, on crée un peu plus de distance avec ses enfants. Mais je veux dire, derrière, un enfant qui ne va pas bien, le prendre dans ses bras, être à l'écoute, être au contact, oui, il y a des vrais effets. Il y a des études auprès de rats. Et on a des chercheurs ont comparé en fait l'impact du comportement de la rate sur les ratons. Et effectivement, lorsque la rate câline son raton, qu'elle lui fait la toilette, etc. Le raton, il sécrète moins d'hormones de stress, il a une durée de vie plus grande, il est aussi un peu plus dégourdi, etc., etc. Alors que dans le cas contraire, une rate très distante avec son raton, y a tout un tas de problèmes qui se mettent en place chez leur rate.
Faites des câlins à vos enfants.
Voilà.
Vous parlez de la peur et de la transmission de la peur. Il y a un passage qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on appelle les phéromones. Et la peur aurait une odeur. En gros, je me suis demandé si finalement, les gens qui avaient peur des chiens, quand ils passaient devant les chiens, ne sécrétaient pas une odeur qui faisait que les chiens s'attaquaient à eux.
Alors, ça dépend parce que si la personne en question a eu une expérience traumatisante, s'est fait mordre par exemple étant petit, parce qu'elle tirait sur la queue du chien, etc., et que derrière elle s'est fait mordre vraiment et en étant blessée, ça a pu créer comme ça un ancrage, une espèce de traumatisme. Et peut-être que chaque fois qu'elle voit un chien ou qu'elle sent une odeur un peu similaire, se déclenche en fait dans son esprit une association d'idées entre chien, peur et derrière morsure potentielle.
Parce qu'on a l'impression que c'est toujours les mêmes personnes qui sont mortes par les chiens. Donc les chiens, c'est quand même pas.
Donc il y a peut-être de ça. Et après, il y a des gens aussi qui sont phobiques.
Mais
donc
les chiens sentiraient l'odeur de la peur. Et puis voilà.
Les
animaux en général.
Les animaux en général sentent ça très bien. Ils détectent très facilement nos émotions. Et pas que à travers l'odorat. Mais vous avez aussi, il y a des études récentes qui montrent qu'ils arrivent à identifier assez bien certaines émotions sur notre visage. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, moi je suis pour qu'on adopte justement, qu'on dépasse peut-être pour certains nos peurs vis-à-vis des animaux de compagnie, mais qu'on adopte plus d'animaux de compagnie, parce que par exemple, jouer 5 minutes avec son chien ou son chat permet de déstresser de manière assez puissante.
Ou son cheval, si on s'appelle Brigitte Lahaie.
Ou son cheval, effectivement, Brigitte Lahaie témoigne
ou
dans...
ses chevaux.
Dans le livre, mais vous avez, ouais, on met en avant une thérapie, voilà, équi-coaching. Le cheval, il vous ment pas, en fait. C'est-à-dire que si à un moment vous voulez le forcer, si vous voulez jouer un personnage qui n'est pas le vôtre, bah, il sent que vous êtes dissonant, il sent que vous n'êtes pas aligné émotionnellement. Et donc derrière, bah, il ne va pas faire ce que vous avez envie qu'il fasse.
Alors, il y a ce qu'on appelle la contagion amireuse. Hein. Je n'ai pas dit amoureuse, mais amireuse. Est-ce que finalement, le coup de foudre, ce n'est pas, là aussi, une question de nez?
Ouais.
Alors, une question de, voilà, de quelque chose d'émotion qui circule.
En fait, j'ai envie de vous dire, votre cerveau, il sait pour vous. Et sans que vous puissiez savoir réellement de manière consciente, analytique, etc. Donc quand il voit quelqu'un qui l'analyse, généralement, vous avez tout un tas d'études qui montrent que les premières impressions émotionnellement guidées vous en disent vachement sur les traits de personnalité de la personne, sur ses attentes, sur ses intentions, sur ses valeurs même de vie. Donc en fait, quand ça bulle émotionnellement, ce qu'on peut appeler aussi le coup de foudre, ben, c'est que peut-être il y a un alignement des planètes, j'allais dire, entre vos valeurs, les valeurs de la personne, on mesure le poids de la complémentarité, on mesure peut-être tout ce qui pourrait bien fonctionner entre nous en termes de dynamique de couple. Et ben, comme ça, voilà, ça se passe comme ça. Donc c'est une mécanique intelligente qui se met en route, mais qui est ultra rapide et qui est basée sur tout un tas de signaux émotionnels. Donc ça, il y a plein de chercheurs qui s'intéressent à ça. Et oui, effectivement, moi j'invite les individus, les gens à beaucoup plus suivre leurs toutes premières intuitions, parce que souvent, pas toujours, mais souvent, elles sont bonnes.
Il y a les deux. Soit c'est la bonne, soit ou alors il ne faut jamais se fier à sa première intention.
Sauf quand elle n'est pas bonne.
Pour vous.
Ouais. Sauf quand elle n'est pas bonne. On peut se tromper, hein. On peut toujours se tromper. Mais quand on se trompe sur la base d'une première impression qui est émotionnellement nourrie, bah derrière, ouais, ça crée un apprentissage très fort. Et dans votre cerveau, la mémoire retient vachement tout ça. Et donc, on ne fera pas deux fois la même erreur. Parce qu'il y a eu un espèce d'ancrage émotionnel. Et chaque fois que vous allez peut-être refaire la même erreur face à un profil un peu similaire à celui que vous aviez rencontré, votre cerveau va dire « Attention, oh, je m'en souviens très très bien. Au niveau de pixelisation mémorielle, là,
Don't touch,
n'y va pas, quoi.
Move.
Voilà, exactement.
Passe ton chemin.
Passe ton chemin.
Vous expliquez comment deux personnes qui s'aiment, finalement, se synchronisent.
Bah, vous voulez faire un test
très rapidement
avec la personne que vous aimez. Moi, je vous invite à vous mettre sur une chaise tous les deux, vous regarder dans le blanc des yeux. Et pour les vrais amoureux, quand c'est un amour profond, vraiment, qui relie les personnes très rapidement, la respiration et le rythme cardiaque des deux personnes se mettent au diapason. Donc là, on est vraiment sur une résonance totale. Vous mettez deux personnes qui ne s'apprécient pas forcément et qu'il n'y a pas ces signaux émotionnels, ça met beaucoup, beaucoup de temps. Ça arrive peut-être jamais. Voilà. Mais c'est un vrai test du niveau d'amour qui lie, en fait, de deux personnes. Faites le test. Vous ferez le test. Regardez dans le blanc des yeux la personne et derrière, vous verrez.
Je vous raconterai.
Vous me raconterez.
Et souvent, par exemple, quand on voit quelqu'un, on dit « lui, je ne le sens pas ». C'est pareil, c'est du même ordre.
C'est exactement ça, sentir, on est dans le sens.
Ouais, c'est la façon
l'émotion,
de...
c'est du sens, hein, c'est du sens visuel, c'est l'odorat, c'est l'ouïe, c'est tout ça. Donc, on est dans ce domaine du sens et quand on verbalise en disant « je ne le sens pas », c'est qu'émotionnellement, ça ne matche pas. Il n'y a pas de fit.
Bon, on va raconter un accident d'avion tout à l'heure et comment certaines personnes ont été amenées à manger de l'être humain. Pour survivre, Christophe Hague est mon invité. Le livre s'appelle « La contagion émotionnelle » chez Albin Michel. Nous parlons d'un sujet qui n'est pas encore très connu aujourd'hui, c'est la contagion émotionnelle. Mon invité s'appelle Christophe Hague et vous publiez un livre pour lequel vous avez travaillé presque 10 ans, hein, avec beaucoup d'interviews aux éditions Albin Michel. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui vous passionne. J'appelle à ceux qui nous écoutent que, par exemple, ils peuvent télécharger l'application Dr Mood. Si ce sont des particuliers, si c'est des entreprises, c'est Mood Work. Alors, on apprend, parce que vous racontez un petit peu votre parcours dans ce livre, qu'un jour, vous partez en expédition avec votre famille dans l'Himalaya et que ce jour-là, vous êtes victime d'un violent orage. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, plus particulièrement, je pars avec celle qui va devenir, quelques années plus tard, ma femme. Et je pense qu'elle m'a fait subir un test. Hein. J'avais l'impression qu'elle voulait me tuer là-haut, mais en fait, non.
Elle voulait tester si vous aviez le vertige ou pas, si vous étiez courageux.
Exactement. Non, mais il y avait une part de test là-dedans. Et effectivement, on tombe après... Donc on est dans l'Himalaya, coulé de boue partout. Le groupe devant nous porté disparu, derrière nous pareil, des morts un peu autour de nous, tous les ponts qui se cassent. On est sur des voilà à haute altitude. Et donc là, bah, on a pu un petit peu effectivement tester la gestion du stress. Et là, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, parce qu'on est passé par des épisodes assez difficiles, ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, ça a été la réaction des Indiens. Et les Indiens étaient, j'allais dire, amenés un contre-feu émotionnel aux Occidentaux qu'on retrouvait dans les rues des principales villes, avec des pancartes, on n'en peut plus, des pancartes assez agressives vis-à-vis de leur agence de voyage, etc. Enfin, à générer, à ressasser des choses extrêmement négatives et qui ne faisaient pas avancer le schmilblick, hein, très clairement. Et bien, vous aviez à côté de ça les Indiens, qui étaient dans des postures méditatives, extrêmement zen de la chose, qui avaient peut-être des gens chez eux, des proches portés disparus, et qui malgré tout restaient dans l'entraide, restaient dans la bienveillance, dans l'écoute, j'allais dire du touriste, etc. Voilà, sacrée leçon de vie là-bas, et ce qui m'a fait m'intéresser en fait à la méditation aussi dans ce livre, et à tous ses bienfaits. Et on remarque effectivement qu'aujourd'hui, les gens qui pratiquent la méditation, quelques heures par jour, ou quelquefois même quelques minutes.
Enfin, quelques heures par jour, c'est quand même beaucoup. Hein.
C'est beaucoup. Alors, il y a des grands méditants, ouais. Mais il y a quelquefois, voilà, quelques minutes, ça peut être des micro-méditations. Eh bien, ces gens-là, en fait, on observe chez ces gens-là, quand on observe le fonctionnement de leur cerveau, eh bien, un grossissement de ce qu'on appelle l'hippocampe, ce qui est vraiment, on va dire, dans le cerveau, la zone qui est responsable de l'équilibre émotionnel. Et un rétrécissement de l'amygdale limbique, c'est là notamment, c'est par là que viennent les émotions un peu négatives. Donc on remarque chez eux voilà, une plus grande connectivité entre certaines zones du cerveau et qui permet de réguler beaucoup plus facilement les émotions et notamment les émotions toxiques. Donc j'ai envie de dire, effectivement, il y a un vrai apprentissage cette méditation qui peut paraître un peu farfelue, etc. En fait, la méditation, c'est très simple. C'est-à-dire qu'à un moment, méditer, c'est vous allez, vous faites une balade en forêt, vous écoutez le silence. Vous essayez de pas penser à tout ce qui vous perturbe là dans la journée. Vous essayez juste d'être au contact de ce que vous voyez. Ça, c'est déjà une forme de méditation. C'est simple, c'est gratuit et ça marche. Mmh.
Alors, vous racontez que finalement, les Indiens, eux, sont contaminants parce qu'ils sont tellement zen que finalement, ils arrivent à diffuser cette zénitude aux gens qui sont traités. Vous racontez une anecdote. alors, vous expliquez que face à la peur, il y a deux comportements de groupe possibles, le chacun pour soi ou le un pour tous, tous pour un. Et vous racontez une histoire qui est devenue célèbre aujourd'hui, puisqu'on l'appelle le miracle des Andes. C'est un accident d'avion, en fait.
Ouais, on est dans les années 70. Il y a un crash d'un charter qui transporte une équipe de rugby qui est absolument pas équipée pour faire de la montagne. Eux, ils vont faire un match le week-end. Et parmi ces personnes, il y en a un qui s'appelle Nando Parado, que j'ai interviewé, qui est donc un des rescapés et qui avait d'ailleurs invité sa maman et sa sœur à faire partie du voyage. Les deux meurent pendant le voyage.
Et la question se pose de savoir s'il faut les manger ou pas.
C'est ça. Et donc lui, il dit à un moment, parce que c'est un des sauveurs, c'est lui qui a traversé la moitié de la cordillère des Andes. Il n'y avait rien à manger là-bas. Pas de faune, pas de flore.
Il n'y avait rien à manger. Et en fait, c'est lui qui va prendre la tête du groupe qui va...
Voilà. Donc ils sont deux à partir en basket, avec quelques morceaux de chair humaine des copains pour avancer. Donc voilà, ils étaient obligés, en fait. J'allais dire, c'était une première forme d'eucharistie. On était dans une espèce de premier don d'organes, en fait. Dans une aventure comme ça, eux disent, on est les premiers donateurs d'organes, en fait. On a fait, c'est parce qu'on était tous d'accord, on a signé un espèce de pacte. Et donc, il m'explique effectivement que la peur l'a fait bouger, l'a mis en mouvement. Il dit, quand la panique tue. Il dit, moi, j'ai jamais voulu céder à la panique. J'ai toujours resté avec cet allié qui est la peur, parce que la peur, quelque part, elle est aussi porteuse d'espoir. C'est-à-dire que quand on a un peu peur, c'est qu'on veut un peu sauver sa peau et c'est qu'on a une option de s'en sortir.
La peur, c'est la peur de mourir, en fait.
C'est ça. Ouais. Et donc, il me raconte, en fait, tout cet épisode, parce que c'est très dur, il perd 30 kilos, il doit manger des copains, il laisse sa mère, il laisse sa sœur. Le truc qui l'a fait avancer, qui l'a motivé à s'en sortir... En fait, c'est ce que j'appelle, moi, dans le livre, une valeur refuge psychique, qui est, je trouve, aujourd'hui un peu abandonnée. Et il me dit, moi, c'est l'envie de retrouver mon père, en fait. Et tous les survivants à haute altitude, il y en a d'autres, des rescapés du K2, de l'Everest, etc. Ils disent tous la même chose.
Il faut se raccrocher à quelque chose.
Je me raccroche à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le souvenir que j'ai eu avec quelqu'un que j'apprécie et qui m'est proche. Le lien affectif que j'ai créé avec cette personne. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société où on a de moins en moins de temps de cerveau disponible à nos proches. Et en ne se rendant pas psychiquement disponible, en ne créant pas ces liens affectifs-là, non seulement on condamne l'autre, mais on se condamne soi-même. Je vais vous prendre un exemple très rapide. C'est celui des grands-parents. Moi, j'en veux un petit peu aujourd'hui aux grands-parents modernes. On les voit quelquefois, certains, en fin de vie, qui sont dans la dernière ligne droite et qui ont un besoin de renouer les liens affectifs avec les leurs, etc. Parce que voilà, on commence à comprendre deux, trois choses sur soi, sur l'existence, etc. Personne ne vient les voir. Dans certains cas, pourquoi est-ce que les personnes ne viennent pas les voir? Parce qu'il n'y a pas eu de lien qui se sont créés. Et donc, vous avez aujourd'hui pas mal de grands-parents qui disent « Bon, ok, là, les petits trucs, là, les petits gnomes, nos petits-enfants, ça fait du bruit, c'est dérangeant. Moi, je préfère aller voyager avec des copains, etc. » Et donc, on n'investit pas dans ces liens affectifs-là. Et en n'investissant pas là-dedans, non seulement les condamneux, c'est-à-dire qu'eux, ils n'auront pas de souvenirs comme ça qui pourront les sortir à un moment d'un coup dur, d'un traumatisme, de rebondir en se disant « Tiens, mais attends, là, c'est tellement, ma vie elle part tellement en cacahuète qu'il faut que je trouve une valeur refuge, un truc où je suis bien, comme ça, et que j'y pense pour aller de l'avant. » Bah ouais, vous créez pas ça. Donc leur album photo de souvenirs avec vous, il est tout fin.
Et ça manque de spontanéité quand même, votre histoire.
C'est pas que ça manque de... Je pense que ça manque d'humanité.
Si c'est calculé, c'est que ça manque de spontanéité.
Ouais, mais ça manque d'humanité. C'est-à-dire que c'est une question à un moment de... Je pense que les gens ne sont pas conscients de l'impact, en fait, de la création de ces liens affectifs sur eux et sur la génération d'en bas. Et ouais, et puis derrière, bah, j'ai envie de dire aux grands-parents, bah, allez-y un peu plus, ce sera bon pour vous, ce sera bon pour les enfants. Mais c'est fondamental. Moi, le souvenir aujourd'hui refuge que j'ai, c'est quand j'avais 8-10 ans, ma grand-mère, je vivais dans un petit village alsacien, à la sortie de l'école, j'allais chez elle, elle me grattait le dos des heures et des heures en me racontant en alsacien des histoires, des contes des frères Grimm. Je voyais, j'ai encore en tête le soleil comme ça qui baignait la pièce, le salon où je me faisais gratter. Moi, quand j'ai un coup de blues, quand ça va pas, quand j'ai un coup de mou, je pense à ça. Mais parce que ma grand-mère s'est donné voilà, cette opportunité-là de créer ce lien avec moi et d'ancrer dans ma mémoire ce truc-là qui est aidant, qui est un outil en fait, qui est un outil de rebond. Grands-parents, ayez conscience de ça. Ok, je ne suis pas en train de vous dire dévotion totale ou
d'aller gratter le dos de vos petits-enfants, voilà. Forcément.
Voilà. Mais derrière, faites-vous un peu violence et sortez de ce confort aussi et allez au contact. Tout le monde a y gagné, c'est du win-win.
Alors, Christophe Haag, vous donnez deux méthodes pour se décontaminer des émotions négatives. Donc la première, on a commencé à en parler, c'est la méditation.
Alors, vous avez une autre, c'est tout simple, hein, c'est le contact avec la nature. On est dans une société où l'urbanisation est grandissante, on se coupe de plus en plus des espaces verts, et bien tout ça crée en fait un déséquilibre émotionnel. Et moi, je suis vraiment... j'ai envie de vous dire, voilà, faites des bains de forêt, allez dans des parcs, etc. Il y a une étude extrêmement intéressante qui a été menée à Londres. On remarque que les quartiers les plus boisés, les plus verts sont là. Alors, peu importe le niveau social du quartier, sont les quartiers où les gens sont les plus heureux, consomment le moins d'antidépresseurs, le moins d'anxiolytiques. Donc moi, j'ai envie de vous dire, voilà, connectez-vous. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent qu'au contact de la nature... On rentre en oscillation avec les feuilles, les mouvements des feuilles, les bruits des petits oiseaux, etc. Et derrière, bah, boum, on se déstresse naturellement. Et j'ai une image comme ça, c'est celle de John Coffey. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film La Ligne Verte avec Tom Hanks, ce grand acteur qui, quand on le touchait, bah, absorbait le mal et derrière, donc vous soignait. Et bah, les arbres ont ce pouvoir-là. Ils ont non seulement la capacité de transformer le CO2 en oxygène, mais en même temps, ils ont la capacité de transformer vos ondes négatives en ondes positives. Après la photosynthèse, moi j'ai envie de dire place à l'hémosynthèse.
The Green Line.
Exactement.
Très bon film. Alors, il y a un test dans le livre pour ceux que, si vous voulez savoir si vous êtes très contaminable, hein, vous faites le test.
C'est ça. Si vous êtes plutôt Bob l'éponge ou Robocop.
Vous effacez les réponses pour pas que les copains le voient.
Mais... voilà, c'est ça. Mais faites-le, voilà, chez ni votre employeur, ni votre... Mais on peut le faire de manière naturelle et juste se dire, tiens... C'est un pouvoir extraordinaire, en fait, de capter les émotions dans son environnement. Parce que quand on capte plein d'émotions, on capte plein d'informations, en réalité. Le problème, c'est que quand on est Bob l'éponge et qu'on capte toutes ces choses-là, mais qu'on n'est pas capable d'essorer, en fait, cette éponge à un moment, c'est-à-dire se dire, OK, dans tout ça, il y a des choses utiles, d'autres qui ne sont pas utiles, bah là, on arrive à saturation et là, on peut expérimenter des troubles psychosomatiques, etc., qui sont un peu fâcheux, quoi.
Et parmi les SAS, vous dites que quand on est en train de se faire pourrir par quelqu'un ou quelqu'un qui est en train de vous contaminer, il faut refuser de porter l'émotion à sa place.
Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est dans un premier temps. Et là, voilà, on est dans une société un peu centrée. Et là, ça peut servir. Moi, je prends l'exemple souvent de l'avion. Il y a une perturbation, les masques à oxygène tombent. Si vous voulez sauver votre gamin à côté, si vraiment ça commence à tourner au vinaigre, vous mettez d'abord le casque.
Sur vous.
Sur vous. Mais ensuite, vous n'oubliez pas de le mettre sur votre enfant. On est dans une société où on met bien le casque sur soi, mais on oublie quelquefois de le mettre sur la personne à côté. Et donc moi, je suis en train de dire, voilà, n'oublions jamais qu'il y a deux phases, en fait. Et voilà, et que le casque, il faut le mettre à la personne à côté.
Bien. Alors maintenant, si on veut transférer des bonnes émotions, comment on fait ? Pour distribuer des émotions positives, pour être contaminant.
Alors, je vais vous donner moi, un exemple tout simple. J'ai vu ça l'autre jour. On voit que sur le net, bon, c'est un déversoir à émotions toxiques, négatives, etc. Vous avez une association en fait en France de tweetos qui, quand vous avez un ou une prix Nobel, un ou une mathématicienne avec quelquefois peut-être un physique désagréable et qui se fait attaquer là-dessus, eh bien, ces personnes se mobilisent. Vont sur le site en question ou sur le mur, etc. Et derrière, contre-tweet, en injectant tout un tas de tweets positifs qui sont souvent argumentés avec du fond, en disant tout le bien que la personne apporte en fait, à la société. Et donc, en faisant ça, bah, ils relèguent les tweets négatifs en tout bas de page, donc ils sont quasi plus lus par les individus. Et là, il y a un renversement de tout ça. Donc, je pense qu'on gagnerait tous justement à être pourvoyeurs d'émotions un peu plus positives, d'être un peu plus dans la gratitude, je veux dire, et d'être plus dans la politesse. On est aujourd'hui dans un monde où les gens oublient de dire bonjour, oublient de dire merci, tout semble nature. Ouais, non, mais non, si on me donne quelque chose, c'est... Non, faut dire merci, et derrière, vous créez quelque chose chez l'autre. Vous allez induire des émotions positives, et on en a vraiment besoin, parce qu'on est aujourd'hui dans un trop-plein de négativité. C'est ce que moi, j'appelle le hum émotionnel négatif.
Alors, pour le hum émotionnel, vous êtes le seul. Hein. J'ai regardé, je ne vois personne qui le reprend, ça, le hum émotionnel.
Non, ouais, c'est vraiment un concept que je développe
C'est à vous, ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le hum émotionnel
Je revendique la paternité. En fait, vous connaissez peut-être le hum. Alors, le hum, c'est un espèce de bruit sourd qu'on entend dans certaines parties du globe.
Et c'est la Terre qui fait ce bruit-là.
Voilà, c'est la Terre qui fait ce bruit-là. Et vous avez certains catastrophistes qui ont d'ailleurs appelé ce bruit-là la trompette de l'apocalypse, et qui, en gros, vous disent, on est tellement en train de taper dans les ressources de la Terre, de la maltraiter, qu'elle se rebiffe et qu'à un moment, elle va imploser. Moi, je pense que si on ne fait pas attention, on va peut-être s'entre-déchirer avant que la Terre n'implose physiquement. Et c'est pour ça que je parle de hum émotionnel négatif, où on est dans une négativité qui est ambiante. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe un peu partout d'un point de vue sociétal. On casse, on agresse. En venant, là, je vous raconte juste cette anecdote. Il y avait deux voitures qui roulaient à faible vitesse à 30 km/h. Ils se rentrent dedans, il n'y a pas de gros dégâts. Vous avez un père de famille, la voiture de derrière, qui sort de la voiture. Devant, c'est un type avec costume-cravate qui allait bosser sans doute à la défense. Ils ne se parlent pas, ils se tapent dessus. C'est juste symptomatique
ça dégénère
de
vite
cette
aujourd'hui.
Surémotionnalité négative. Et ce livre, en fait, c'est un vrai livre d'espoir parce qu'il donne, d'une certaine manière, des antidotes pour renverser ce hum émotionnel négatif.
Voilà, avec des sas de décontamination, de décompression. Et quel lien vous faites entre le hum émotionnel et la contagion émotionnelle, en fait ?
Bah, c'est-à-dire que le hum émotionnel négatif, c'est la résultante, c'est le résultat, en fait, d'une contagion d'émotions toxiques. Donc, pour contrecarrer tout ça, essayons d'avoir un peu plus d'émotions positives qui transpirent, qui transitent d'un individu à l'autre, on arrivera à ce rééquilibre. Voilà.
Bien. Vous avez un mantra quand vous méditez ?
Non, pas forcément.
Rien.
Non. Voilà. Et vous ?
Non, je ne médite pas.
D'accord. Il y a un début à tout.
Je vais y mettre.
Il y a un début à tout.
Je vais faire de la radio pour méditer. Christophe Hague était avec nous. Votre livre s'appelle La contamination émotionnelle aux éditions Albin Michel. Vous retrouvez cette émission sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous, Christophe.
Merci, Philippe.
À la prochaine fois.